Nous nous retrouvons une fois encore aujourd'hui en ce dimanche pour parler de notre Dieu. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, au chapitre 3, du verset 1 à 16. Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 à 16. Nous lisons, je pense que tout le monde voit le passage. Je lis pour nous tous. Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 à 16. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il regardait attentivement, attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait plus Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre voyant cela dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la paix que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Excusez-moi d'abord de vous dire que vous me voyez en lunettes fumées. C'est pas pour le plaisir, c'est parce que je souffre un peu de rhume. Et puis avec la lumière, ça me fait couler les larmes. Alors, avant de commencer notre message, il s'agit là d'un des miracles parmi tant d'autres qui ont été faits non seulement par Jésus, mais par ses disciples. Mais je voudrais commencer par vous donner deux des exemples des miracles que Jésus a accomplis de son vivant. Vous vous rappelez de noces de Cana qui est racontée dans Jean au chapitre 2 du verset 1 à 11. En effet, Jésus, Marie, la mère de Jésus, et les disciples de Jésus étaient invités à cette fête. Le vin ayant manqué, Marie, la mère de Jésus, va vers son fils pour lui dire qu'il n'y a plus de vin. Mais Jésus va lui répondre en lui disant que son heure n'était pas encore venue. Toutefois, Marie va prendre soin de dire aux disciples, aux serviteurs qui étaient là présents, de faire tout ce que Jésus leur dira. Jésus va se retourner vers ses disciples et va leur demander de remplir d'eau les 6 vases de pierre qui étaient destinés aux purifications des Juifs. Et ses serviteurs vont apporter ces 6 vases remplis d'eau. Jésus va leur dire de les ramener, de les rapporter, si vous voulez, à l'ordonnateur de la fête. Quand celui-ci va goûter ce vin, il va se rendre compte qu'il était de très bonne qualité, plus que celui qu'ils avaient avant, au point qu'il va reprocher à l'époux en lui disant « Pourquoi n'aurait-il pas fallu commencer par le vin qui était de très bonne qualité ?» Ce miracle, c'est Jésus qui l'a accompli, que nous appelons toujours très souvent au nom du miracle du changement de l'eau en vin. Le deuxième miracle que je vais vous raconter, c'est celui de la pêche miraculeuse. Vous vous rappelez que auprès du lac Génézareth, il y avait une foule qui était pressée autour de Jésus quand il leur parlait de la parole de Dieu. Et là, à côté, il y avait 2 barques, dont l'une appartenait à Simon Pierre. Alors, Jésus va monter dans la barque de Simon pour lui demander de s'éloigner un peu de bord, afin qu'il puisse apporter la parole de Dieu à la foule qui était présente. Simon va le faire, il va s'éloigner un peu de terre, et Jésus va continuer à apporter la parole. À la fin, Jésus va demander à Simon de jeter le filet pour pêcher. Et Simon de lui dire, « Maître, nous avons pêché pendant toute la nuit, mais nous n'avons rien eu. Mais sur ta demande, je vais jeter le filet. » L'ayant jeté donc, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Au point où Simon va faire signe à ses compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider, parce qu'il y avait une grande quantité de poissons. Ils vinrent et puis ils remplirent toutes les 2 barques au point où elles s'enfonçaient. Et quand Simon va voir cela, il va tomber aux genoux de Jésus et lui dire, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Et tous ceux qui étaient tout autour furent étonnés de ce qu'ils voyaient. Pourquoi je vous raconte ces 2 miracles de Jésus? Vous avez vu, dans l'autre texte principal, il s'agit bien évidemment d'un miracle qui a été accompli par Pierre et Jean. C'est pour vous dire que Jésus-Christ de son vivant accomplissait des miracles qui ont laissé perplexes les hommes de ce monde, en l'occurrence les païens. En effet, dans le récit que nous avons lu dans la Bible, nous voyons que, et même pour les 2 exemples que je viens de donner, à chaque fois qu'un homme va à la rencontre de Jésus, de son vivant, après sa mort, sa résurrection et sa montée au ciel, et même aujourd'hui, la vie de cet homme change totalement et dans tous les cas, son besoin trouve satisfaction. Revenons, si vous voulez bien, au texte. Dans le texte que nous avons lu, nous avons devant nous un homme pauvre, un homme boiteux de naissance, dont la vie dépend totalement ou partiellement des autres, tant pour ses besoins vitaux que pour son déplacement. Cet homme n'a rien autre à espérer dans sa vie que la misère, se considérant inutile dans la société et ne servant à rien. Cet homme donc se voit totalement désespéré, car selon lui, il trouve que son avenir paraît sombre. Alors qu'aux yeux de Dieu, cet homme a de la valeur. Il a été racheté à travers un grand prix, le sacrifice de Jésus à la croix. Comme on le voit, l'événement se déroule après une vague de repentance de plusieurs milliers d'hommes et de femmes qui sont venus au Seigneur après avoir suivi le discours sur le plaidoyer de Pierre au sujet de Jésus, que les pharisiens naturellement ont crucifié. Ce discours a été comme un électrochoc après que l'Esprit est descendu du ciel sur les chrétiens assemblés en un seul lieu lors de la Pentecôte. Cet homme donc va profiter de cette ferveur. Il va profiter de cet engouement des nouveaux convertis pour le mettre à l'épreuve devant leur propre église. Analysons d'abord son approche. Eh bien, cet homme a choisi de se placer à l'entrée du temple, parce que selon lui, la plupart, si pas tous les chrétiens qui passent par là pour entrer et pour suivre les prêches de Pierre et Jean, eh bien, ils vont le voir. Et en passant par là, bien entendu, eh bien, il y a quelques-uns qui auront pitié de lui et qui vont lui être charitables. Dans ses calculs, cet homme était sûr que pendant toute une journée, quelques pièces ne manqueraient pas de tomber dans sa poche. Et cela ne fait l'ombre d'aucun doute que sa motivation était purement matérielle. Peut-être que cet homme se demandait ce qu'il ferait à l'intérieur de l'église, une fois entré, parce que leur Dieu, entre guillemets, ne prend pas soin de lui. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des personnes que nous rencontrons, que ce soit dans la rue, ou même de ceux que nous appelons aujourd'hui des non-croyants. Ces personnes ne voient aucun intérêt à venir à l'église, parce que pour elles, ce n'est pas un problème de ne pas croire en un Dieu qui ne voit pas. Par conséquent, ils n'en souffrent pas. Au contraire, ils sont fiers de vivre sans Dieu. C'est pour ces personnes-là un signe de liberté et de maturité. Mais si nous examinons très bien, dans la vie de chacune de ces personnes, il y a un manque indéniable. Il y a quelque chose que ces personnes veulent combler à tout prix. Et ce quelque chose peut être un intérêt particulier qu'ils ont, ou croire considérablement à quelque chose qu'ils appellent petit Dieu. Alors, ce quelque chose peut être l'argent. Ça peut être les affaires ou autre. Et ça peut aussi être ce que quelques-uns appellent communément un péché mignon. Alors, aveuglés par le besoin de ce monde, qui ne sont au fait qu'éphémères, très vite, ces personnes-là tombent dans une sorte d'engrenage, des soucis et des déprimes lorsque les problèmes arrivent. Elles se voient donc abandonnées à leur triste sort, délaissées par leur soi-disant grand Dieu, ou petit Dieu si vous voulez. N'ayant pas à qui se confier, ils se donnent aux solutions stupides lorsque le problème arrive. Alors qu'à côté de ces personnes, il y a la solution. Et la solution, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Jésus est là. Il se tient debout et il frappe, attendant qu'on lui ouvre la porte, attendant qu'on lui ouvre le cœur pour y entrer. Revenons, si vous le voulez, à notre texte. Si nous comprenons très bien le besoin de cet homme que nous avons vu dans le texte que nous avons lu, est plus que matériel. Son besoin était Jésus-Christ. Parce que Jésus pouvait pourvoir à tous ses besoins, même au-delà de ses attentes. Jésus seul pouvait opérer une transformation profonde et totale dans sa vie. Transformation non seulement physique, mais aussi spirituelle. Jésus pouvait non seulement donner satisfaction à tous ses besoins, mais surtout lui procurer la paix que le monde ne pouvait lui offrir, malgré les aumônes qui ne lui servaient qu'à la survie de chaque jour. Ce qui est malheureux, frères et sœurs, c'est le fait que cet homme, par habitude peut-être, se plaît dans son état. Et de ce maigre butin quotidien qu'il avait chaque jour donc à l'entrée du temple. Alors, quand il voit Pierre et Jean s'approcher de lui, nous l'avons lu, il va tendre la main comme d'habitude. Et remarquant que ces deux hommes lui fixent les yeux, dans son cœur, il a le sentiment qu'ils ont vraiment pitié de son état. De ses regards compatissants, chacun va mettre la main dans la poche pour lui donner de l'aumône. Il est vrai que Pierre et Jean avaient vraiment pitié de cet homme. De par son état, bien sûr, sa misère, mais au-delà de ses considérations physiques et matérielles, ils avaient pitié de son âme d'abord, et surtout de sa relation avec le Seigneur. Ils se disaient finalement, qu'arriverait-il à cet homme de bénéficier de ce peu d'argent que l'on peut lui tendre, et qu'au final, son âme soit perdue. D'ailleurs, la Bible même le dit, il y a un passage qui dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde si son âme se perd? Alors, quand il entendit Pierre prendre la parole et lui dire « Je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Sa première impression, bien-aimé, était la déception totale. Parce que il espérait mieux que ça. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il ne réalisait pas qu'à partir de ce moment, sa vie allait complètement changer. Bien-aimés, nous oublions parfois que nous avons en nous quelque chose de très fort que le monde n'a pas. Nous avons une arme que nous pouvons faire valoir devant des détresses ou des circonstances. Cette arme que nous avons, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Cet homme se disait peut-être au-dedans de lui, pourquoi avais-je tendu la main à ces deux personnages? Parce qu'ils risquent de m'entraîner dans leur église, pendant que moi je ne suis pas là pour ça. D'autre part, en entrant dans l'église, je risque de rater les aumônes que j'aurais dû bénéficier à la porte. Mais au moment où Pierre l'est tenu par la main pour le mettre debout, il sentit une puissance le traverser de haut en bas. pour raffermir ses pieds et ses chevilles. Et quand il réalisa qu'il se tenait debout, il finit par comprendre l'événement qui venait de se produire dans sa vie. Que le Dieu de ces personnages-là était capable d'opérer des miracles. Que les fidèles qui entrent tous les jours à l'église avaient toutes les bonnes raisons de venir jour après jour pour entendre sa parole et le louer. Alors, quelle était sa première réaction après avoir vécu ce qui lui est arrivé? Eh bien, sa première réaction était de suivre Pierre et Jean avec joie à l'intérieur de l'église, glorifiant Dieu. Avant tout, on l'a vu, cet homme n'avait pas du tout, n'était pas du tout intéressé par l'église. Mais après lui avoir présenté Jésus, il a trouvé l'intérêt d'y entrer. Il a compris finalement qu'il avait besoin de Jésus par-dessus tout. Par là, la bonne raison de le louer et de le glorifier. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17 nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, il n'y a pas de hasard dans la façon d'agir de Dieu. Dieu aimait cet homme. Il voyait sa souffrance. Il avait d'abord besoin de son âme. Voilà pourquoi il a voulu faire passer cet homme par cette épreuve, pour lui faire découvrir sa grandeur et surtout son amour. Et la suite nous en donne raison. Dieu a voulu aussi, à travers ce miracle, glorifier son Fils, en prouvant, s'il en était besoin, à tous les païens, pharisiens comme scribes, que le nom de Jésus-Christ était une force vivante, une force puissante qui a ses effets même devant des situations inespérées. 1 Jean chapitre 5 du verset 11 à 12, nous voyons qu'on nous dit: Dieu nous a donné la vie éternelle.